Il ne m'est pas forcément habituel de prêcher deux dimanches de suite sur le même texte, et pourtant c'est ce que je vais faire ce matin. Nous avons, il y a un mois, dans notre série sur David, eu l'occasion de méditer les chapitres 11 et 12 du deuxième livre de Samuel, et ce matin, j'aimerais reprendre une partie de ce chapitre 12 du deuxième livre de Samuel avec vous. Et je lirai à partir du verset 7, et plus particulièrement du verset 9. Alors Nathan dit à David, cet homme-là, c'est toi. Il dit cela après que David se soit offensé, se soit indigné à l'écoute d'une parabole où un riche offensait un pauvre. Et Nathan dit à David, cet homme-là, c'est toi. Alors, verset 9, « Alors pourquoi as-tu méprisé ma parole, dit le Seigneur, en faisant ce que je considère comme mal ? Tu as assassiné par l'épée Uri, le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne. Et lui-même, tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille. » parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour en faire ta femme. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire venir le malheur contre toi. Du sein même de ta famille, je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui s'unira à elles au grand jour. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël au grand jour. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan lui répondit, eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Toutefois, comme par cette affaire, tu as fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser, le fils qui t'est né mourra. Et un peu plus loin, au verset 24 et 25, après que le fils né de cette union illégitime soit décédé, David consola Bathsheba, sa femme. Il alla vers elle et s'unit à elle. Elle eut de nouveau un fils qu'elle appela Salomon, le pacifique. L'Éternel l'aima et envoya le prophète Nathan adresser une parole de sa part à David. Aussi celui-ci appela l'enfant Yadia, bien-aimé de l'Éternel, à cause de l'Éternel. Jusque-là. Seigneur, que ta parole soit vivante ce matin au milieu de nous, que nous puissions la comprendre, la recevoir comme venant de toi. Amen. Presque tous les jours, nous pouvons lire dans les journaux des histoires malheureuses de personnes qui sont très en vue et qui ont eu des zones d'ombre dans leur vie dont on n'avait absolument pas conscience. La semaine écoulée, c'était l'histoire de Jean Vanier, fondateur de l'Arche, qui a tellement fait pour les plus petits. Un homme qui a eu de saisissantes intuitions sur l'accueil de la fragilité, du handicap. Un homme qui a donné de la place dans la société à ceux qui sont exclus. Il est décédé l'an dernier et nous avons appris cette semaine qu'il avait abusé de son emprise spirituelle pour amener au moins 6 femmes à avoir des relations intimes avec lui. Certains catholiques pensaient déjà faire de lui un saint, tant ils lui vouaient une admiration sans borne. Et puis le voilà, subitement déchu, tombé de son piédestal. Il est vrai que nous y sommes peut-être un peu moins sensibles en tant que protestants, mais c'est un véritable choc pour le monde catholique. Un monde qui a déjà été habitué à beaucoup de scandales ces derniers temps. mais il ne faut pas nous voiler la face. Cela ne se passe pas que chez les autres. Il y a nos propres situations dans le monde protestant, dans le monde évangélique, même si c'est souvent moins médiatisé. Et cela pose des questions. Cela pose des questions sur les personnes que l'on admire et chez lesquelles on découvre finalement beaucoup de fragilité et même de la perversion, chez lesquelles on découvre une emprise alors que jusque-là, nous n'avions peut-être vu chez elles que de la sainteté. Si un homme comme Jean Vanier et comme d'autres ont eu une telle part d'ombre, est-ce que l'on peut encore faire confiance à des hommes ? Qui sont ceux qui, pour nous, peuvent être des modèles, des bergers ? Je crois que nous devons rappeler qu'un homme reste d'abord un homme, quelqu'un de faillible. Même le plus saint des hommes reste quelqu'un de faillible, quelqu'un qui dépend de la grâce de Jésus-Christ pour rester fidèle à Dieu jusqu'au bout de sa vie. Et il est dangereux de mettre des hommes de Dieu sur un piédestal, de les admirer sans borne. Je crois que notre regard doit d'abord se fixer sur Jésus-Christ. Jésus est le seul qui jamais ne pourra nous décevoir. Jésus est le seul qui jamais n'a commis la moindre faute. Jésus est le seul qui peut réellement nous révéler qui est Dieu le Père. Les plus grands parmi les hommes ont tous eu leur part de faiblesse. Pensez à l'apôtre Pierre qui a renié Jésus. Ce même apôtre Pierre qui, plus tard, au cours d'un repas, joue l'hypocrite vis-à-vis des paganos-païens, des paganos-chrétiens pour ne pas s'attirer d'ennui avec les judaïsants. Et l'apôtre Paul devra le reprendre publiquement. Et pourtant, c'est bien à l'apôtre Pierre que Jésus a dit « Tu es ce roc et ce roc sur lequel je bâtirai mon Église. » Et nous avons reçu de ce même apôtre Pierre deux lettres que nous avons dans notre Nouveau Testament. Deux lettres que nous recevons comme divinement inspirés. Ce qui s'est passé, c'est que Pierre s'est repenti. Il a changé de comportement. Et c'est la raison pour laquelle il a pu jouer ensuite un rôle si important dans l'œuvre du Seigneur. Et des hommes qui ont péché, nous en trouvons beaucoup dans la Bible. Nous avons évoqué ce matin, et dans ma dernière prédication, le roi David, son adultère, son meurtre. David a commis des actes abominables. Lui, qui était un homme admiré, un homme respecté, quelqu'un qui avait la faveur de Dieu, quelqu'un qui avait tout reçu. Lui, l'homme riche à qui rien ne manquait. Et cet homme va convoiter une très belle femme qui appartient déjà à un autre homme, qui est marié. Il va abuser de son autorité pour l'amener dans son lit. Et quand il apprend qu'elle est tombée enceinte, au lieu de reconnaître son péché et de revenir à Dieu, il va tout faire pour dissimuler la vérité. Il va faire revenir son mari qui est à la guerre pour qu'il aille coucher avec sa femme et dans l'idée de laisser croire que l'enfant qui viendra à naître serait de lui. Et puis son stratagème échoue. Il s'enfonce dans la perversité. Il en vient à des envies de meurtre. Et il fait en sorte que le mari retourne au front, qu'il soit placé à l'endroit le plus dangereux pour qu'il soit tué. Et alors, débarrassé de ce mari, David pourra prendre Bathsheba pour femme. Tout cela, bien sûr, en cachette, sans que le grand public ne sache quoi que ce soit au sujet de la vérité. Mais Dieu n'a-t-il pas vu ? Dieu ne sait-il pas ? David, l'homme respecté, l'homme admiré, l'homme qui a composé de si belles prières, l'homme qui a écrit de si beaux chants, David a convoité la femme d'autrui. Il a délibérément enfreint les commandements de Dieu qu'il connaissait et les a enfreints en abusant de son autorité, de roi, de son autorité spirituelle aussi, en commettant un adultère. Et puis il a fait preuve d'hypocrisie, il a menti, il est allé jusqu'au meurtre du mari innocent. Si quelqu'un comme David a eu une si grande part d'ombre, comment peut-on faire confiance à des hommes et des femmes qui sont engagés dans l'Église ou dans l'œuvre de Dieu? David était un modèle. Il était berger aussi du peuple de Dieu. Mais il ne nous est pas présenté dans l'Écriture comme un modèle irréprochable, comme quelqu'un qui n'aurait jamais commis de faute. Nous avons en David le modèle d'un pécheur qui s'est repenti. Et c'est cela qui nous marque dans l'histoire de David, parce qu'il est l'illustration de ce que nous sommes appelés à être dans l'Église. Nous ne sommes pas appelés à être des propres justes, des gens qui nous croyons au-dessus des autres, meilleurs que les autres. Nous sommes appelés à nous reconnaître comme des pécheurs qui avons besoin de la grâce de Dieu. Et l'Église est composée de pécheurs qui se sont repentis. Elle n'est pas composée de propres justes. David sera démasqué par le Seigneur au travers du prophète Nathan, et puis sa faute sera connue publiquement. Ce qu'il a voulu cacher sera finalement connu de tous. David a gravement chuté, mais ce qui fait la différence avec son prédécesseur, le roi Saül, c'est qu'il reconnaît sa faute, qu'il retourne à Dieu comme son prédécesseur n'a pas su le faire. Et c'est ce qui lui permet de rester dans la grâce divine. David va rester attaché à Dieu jusqu'au terme de sa vie, même s'il y aura encore d'autres failles dans sa vie, et notamment dans son rôle en tant que chef de famille. Et ça, on le verra la prochaine fois. Mais ce matin, j'aimerais poser trois questions auxquelles je vais répondre brièvement. C'est comment Dieu peut-il pardonner ce qui semble impardonnable? Et deuxièmement, pourquoi David semble-t-il si bien s'en sortir en pouvant finalement marier celle qu'il a aimée? Et troisièmement, comment est-il possible que David reste dans la Bible cette figure de l'homme de Dieu par excellence, l'homme selon le cœur de Dieu? Nous devons en tout cas apprendre de cette histoire et des histoires qui nous sont montrées aussi dans les médias régulièrement, que les chrétiens que l'on prend comme modèle ne sont pas parfaits. Ces chrétiens ne doivent pas prendre la place de Jésus-Christ. Il y a trop de chrétiens, je dois le dire, trop de chrétiens qui idéalisent leur pasteur et qui oublient qu'il est fait de la même pâte humaine que les croyants ordinaires, que ce pasteur n'a pas une relation privilégiée avec le Seigneur, qu'il mettrait dans une catégorie à part. Ceux qui sont nos bergers peuvent être nos modèles humains, mais ce ne sont pas des personnes parfaites. Ce que le Seigneur attend des bergers et ce que le Seigneur attend de chacun de nous, de chaque croyant, c'est que nous sachions reconnaître nos torts au risque que cela puisse coûter notre réputation ou que cela puisse nous apparaître comme quelque chose de honteux. Ceux qui sont nos modèles devraient être des personnes humbles qui demandent à Dieu la grâce de pouvoir rester fidèles jusqu'au bout, parce qu'elles savent leur fragilité, elles savent qu'elles peuvent tomber. Ceux qui sont nos modèles sont des personnes qui devraient se connaître suffisamment pour savoir qu'elles ne sont pas à l'abri d'une chute. C'est un commentateur catholique qui faisait cette remarque en disant « Des modèles peuvent nous aider à trouver le chemin, mais n'en faisons pas des sauveurs. » N'en faisons pas des sauveurs. Alors ma première question, comment Dieu peut-il pardonner ce qui semble impardonnable? Quand quelqu'un chute gravement, qu'il ait été un chrétien en vue ou qu'il soit un chrétien anonyme, il peut arriver que nous ayons une certaine peine à lui pardonner. Comment a-t-il pu faire cela? Son acte est inqualifiable, il est impardonnable. Et je suis sûr que vous pensez à plusieurs histoires autour de vous. Moi, je pense à ce chrétien alcoolique qui faisait du tort à sa femme, à ce chrétien qui me confessait son homosexualité mais qui peinait à vivre dans la chasteté, à cette femme qui a avorté mais qui ne pouvait pas se pardonner, à ce responsable spirituel qui avait abusé d'une femme mais qui continuait d'exercer le ministère. Le roi David, lui, est adultère et meurtrier. Il a cherché à tout cacher. Et c'est la nature du péché, de vouloir cacher les choses honteuses. Et dans certaines familles, il y a des secrets bien cachés que l'on ne voudrait surtout pas ébruiter. Et pourtant, je crois que l'Esprit de Dieu vient dévoiler ce qui est caché. Il veut mettre les choses en lumière pour permettre un chemin de guérison et un chemin de salut. Dieu s'y prend de cette manière avec David en envoyant son pasteur, Nathan. Et Nathan lui raconte l'histoire d'un homme riche qui va voler les brebis d'un homme pauvre, qui va voler la seule brebis que possède cet homme pauvre. Et il va voler cette brebis pour ne pas entamer son propre cheptel, qui est nombreux pourtant. « C'est injuste !» crie David. « L'homme qui a fait cela mérite la mort !» Et puis Nathan se tourne vers David et lui dit « Cet homme-là, c'est toi !» Parfois Dieu nous met à nu. David est mis à nu devant son injustice. Et Nathan peut alors dévoiler le péché de manière plus directe. « Ainsi parle le Seigneur, lui dit-il, tu as assassiné par l'épée Uri, même si c'était de manière détournée en le mettant au front à la guerre. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne, alors que tu en as déjà plusieurs et que tu as même tout un harem. » Vous savez, pour mettre les choses en lumière, il faut parfois les nommer explicitement. Et c'est ce que fait Nathan. Il dit clairement ce qui ne va pas. Mais ce qui m'impressionne dans le texte, dans ce que dit Nathan à David, c'est ce qu'il dit avant cette dénonciation. Il dit que ce qui est à l'origine de tout, c'est le mépris de David pour la parole de Dieu. « Tu as méprisé ma parole, dit le Seigneur à David. » Tu connaissais mes commandements, tu savais délibérément que tu agissais mal, et tu l'as fait quand même. David prend à ce moment-là vraiment conscience de la gravité des faits. Et il dit « J'ai péché. J'ai péché contre l'Éternel. » Il le dit devant Nathan. La culpabilité n'a fait que de poursuivre David depuis le moment où il a péché. Il n'était plus en paix. On le lit dans le psaume 51. Et là, il regrette. Il regrette publiquement ce qu'il a fait. Il regrette d'avoir blessé le cœur de Dieu, son Père. Dans le psaume 51, il écrit « Je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché. » J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Contre toi seul, j'ai péché. David ne nie pas qu'il a fait du mal à Bathsheba. David ne nie pas qu'il a fait tuer son mari. David reconnaît ses fautes. David réalise même la monstruosité de ses actes. Mais quand il dit « J'ai péché contre toi seul », David reconnaît ce qui est au cœur du problème. C'est qu'il a trahi son Dieu. Il s'est éloigné de ses commandements. Bien sûr, on peut pécher contre soi. Bien sûr, on peut pécher contre les autres. Et David a péché contre les autres. Mais pécher contre soi ou pécher contre les autres, c'est d'abord pécher contre Dieu. Parce que c'est lui qui nous a fait. Et c'est lui qui a fait les autres à son image. David reconnaît le mal qu'il a fait aux autres. Et il prend conscience qu'à l'origine de tout cela se situe son rejet de Dieu, le fait qu'il ait voulu poursuivre ses instincts de pécheur plutôt que d'obéir au commandement du Seigneur. Et après cela, tout s'est enchaîné. Il s'est enfermé dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Quand il est face à Nathan, qu'il confesse face à son subordonné le fait qu'il a péché, c'était une forme de suicide politique. Cela coûte à David. Et pourtant, il le fait parce que c'est le chemin d'une repentance qui est sincère. Et la réponse est immédiate, elle ne se fait pas attendre. Nathan lui dit, « Le Seigneur laisse passer ton péché, tu ne mourras pas. » Dans sa grâce, et la grâce de Dieu est infinie, dans sa grâce, Dieu n'exige pas la mort de David, même si cela aurait été la peine requise par la loi de Moïse contre les meurtriers et contre les adultères. Dieu est prêt à pardonner tout pécheur qui reconnaît pleinement ses fautes. Il est prêt à pardonner à celui qui se repent sincèrement et qui ne cherche pas à s'en tirer à bon compte en donnant juste l'illusion d'une repentance, mais où la repentance n'est constituée que de mots qui n'ont pas de poids, qui n'ont pas de réalité dans le cœur de la personne. Dieu ne veut pas d'une repentance de façade, pour que l'on continue ensuite à vivre comme avant. Il veut un vrai changement du cœur. Nous lisons dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, que si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Cela ne veut pas dire parce que Dieu pardonne les péchés les plus graves, qu'il banalise le mal qui a été commis. Ça ne veut pas dire qu'il oublie le mal qui a été commis. Et cela ne veut pas dire non plus qu'il refuse de faire justice. Mais la justice de Dieu est accomplie en Jésus-Christ. C'est à la croix que Jésus s'est substitué à nous, pécheurs, qu'il a pris notre péché sur lui et qu'il l'a expié. À la croix, Jésus a subi notre condamnation. Et c'est pour cela que nous sommes délivrés de la condamnation divine. C'est uniquement parce que Jésus est mort à la croix que nous pouvons entendre cette parole de Dieu, « Tu ne mourras pas ». Il est bien possible qu'autour de nous, nous rencontrions des personnes qui aient du mal à accepter que Dieu puisse nous pardonner. Il est même possible que nous ayons nous-mêmes du mal à nous pardonner. Mais la parole de Dieu est claire. Dieu est prêt à faire grâce à tous ceux qui reviennent à lui. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Et ce matin, peut-être que l'Esprit de Dieu parle à l'un ou à l'autre, qu'il révèle des zones d'ombre dans ta vie. Peut-être montre-t-il à quelqu'un sa situation de péché et qu'il appelle ce matin quelqu'un à se repentir. Repends-toi sincèrement si le Seigneur te parle. Accepte son pardon. Son pardon est gratuit. Dieu ne demande pas que tu paies pour obtenir son pardon. Il ne demande pas que tu fasses d'abord un certain nombre de bonnes œuvres pour qu'il puisse te pardonner. Son pardon est gratuit. Il est pure grâce. Quand Dieu nous pardonne, nous obtenons la délivrance. Nous sommes libérés de notre culpabilité. Nous pouvons enfin recevoir la paix et la joie de Dieu. Parce que Dieu vient nous laver et nous purifier. J'en arrive à ma deuxième question. Est-il aussi simple de passer à autre chose et de profiter de la grâce de Dieu? Recevoir le pardon de Dieu n'efface pas le mal qui a été commis. Quand Nathan dit à David que le Seigneur lui pardonne son péché, il rajoute tout de suite après, « Mais parce que tu as bafoué le Seigneur en cette affaire, le fils qui te naît mourra. » Et juste avant cela, il avait déjà annoncé à David que, parce qu'il avait utilisé l'épée pour abattre Uri, l'épée ne s'éloignerait plus jamais de sa maison. Et parce qu'il avait pris la femme d'Uri pour en faire sa femme, le Seigneur allait susciter contre lui un malheur dans sa famille, et donner ses propres femmes à un autre. Donc on voit bien que l'égarement d'un instant, l'égarement de cet homme, entraîne des conséquences sur lui, sur sa famille et sur plusieurs générations. La violence engendre d'autres violences. Les dysfonctionnements familiaux peuvent engendrer d'autres dysfonctionnements. Ils peuvent perturber l'équilibre familial auprès des enfants et même des petits-enfants. Et si Dieu pardonne, il n'enlève pas forcément les conséquences du péché. Ça ne veut pas dire pour autant que les petits-enfants sont condamnés à vivre dans le malheur. Dieu est un Dieu de grâce. Mais il y a des dysfonctionnements que l'on peut hériter d'erreurs de nos pères, pour lesquelles Dieu veut nous aider à nous en sortir. Il n'empêche que nous héritons d'une histoire, une histoire familiale qui a parfois été perturbée, malmenée. Celui qui passe par une repentance sincère doit aussi accepter de payer le prix de ses erreurs. Sinon, il est à craindre que la repentance ne soit que de façade. Quelqu'un qui passe par une repentance sincère est prêt à payer pour ce qu'il a fait, il est prêt à assumer ce qu'il a fait. C'est le cas de David. Dieu, pour autant, ne pourrait-il quand même pas, malgré la sentence qui est annoncée, faire preuve encore de grâce et même renoncer aux sentences qu'il a annoncées? On peut toujours formuler cette requête auprès de Dieu qui est notre Père, comme un enfant peut toujours demander quelque chose à son Père. Parce que Dieu est un Dieu de générosité. Et qui sait s'il ne va pas encore faire grâce? Nous avons un Père qui prend soin de nous. Un Père qui ne veut pas nous enfermer dans notre descendance et qui ne veut pas enfermer notre descendance dans le fruit de notre péché. Alors pourquoi ne demanderions-nous pas au Seigneur d'enlever ses conséquences? C'est ce que David va faire. Quand il apprend la mort de son enfant, quand il apprend la maladie de son enfant, il se plonge dans le jeûne, dans la prière. Et il va dire, qui sait si le Seigneur ne me fera pas grâce si l'enfant ne vivra pas? Et si l'enfant ne vivra pas? Mais quand l'enfant meurt quand même, David accepte que c'était là la sentence de Dieu. La sentence donnée face aux nations pour révéler le péché de David aux yeux de tous. Et David ne se révolte pas. Dieu a fait grâce à David. Il lui a pardonné son péché. Il ne lui a pas enlevé la vie comme il aurait dû le faire. Il ne lui a pas retiré la royauté comme il l'a fait pour son prédécesseur. Mais il n'a pas empêché la mort de cet enfant. Il n'a pas empêché qu'il y ait des dérèglements familiaux par la suite. Et pourtant, Dieu, dans sa grâce, permet toujours des nouveaux départs. J'en viens à ma troisième question. C'est la question de la réhabilitation du pécheur. Est-ce que celui qui a commis une faute peut continuer à servir le Seigneur comme il le faisait précédemment? Nous sommes dans une société qui a de la peine à pardonner. Parfois même jusque dans l'Église, nous avons de la peine à pardonner à ceux qui sont tombés, ceux qui ont fauté. Et je l'ai dit tout à l'heure, parfois les personnes elles-mêmes ont de la peine à se pardonner, à accepter le pardon de Dieu dans leur vie. Et ce qui se passe, c'est qu'alors, elles se privent de cette grâce, elles se privent de la vie. Et souvent, elles se coupent de l'Église parce qu'elles craignent que dans l'Église, elles devront faire face à des regards désapprobateurs, des regards accusateurs. Il faut reconnaître que parfois, en Église, le chrétien qui a fauté va devoir supporter le regard condamnateur des autres. C'est triste, parce que celui qui se repent est pardonné. Et ceux qui ont ce regard condamnateur à l'égard des autres sont souvent des personnes qui ont une attitude de propre juste et qui oublient qu'elles-mêmes, elles ont besoin de la grâce de Dieu. Ces personnes oublient que l'Église est formée de pécheurs qui se sont repentis. Elles oublient que la mission de l'Église, c'est précisément de réclamer d'autres pécheurs pour le Christ. Elles oublient aussi que si l'Église accomplit cette mission d'aller chercher les pécheurs pour qu'ils se repentent et rejoignent l'intimité du Père, alors l'Église accomplira la tâche qui lui était confiée par Jésus, le Christ, son chef. Elles oublient aussi que celui à qui l'on a beaucoup pardonné sera capable de beaucoup d'amour en retour. Et que souvent ces personnes sont bien placées ensuite pour accompagner d'autres qui ont besoin de recevoir le pardon de Dieu et qui ont besoin d'être restaurés. Il faut bien reconnaître que le chemin de la repentance n'est pas toujours facile et que certaines personnes tendent à passer rapidement sur cette repentance en utilisant les mots de la repentance, mais sans qu'il y ait de réels changements. Et que ce sont souvent ces personnes-là qui peuvent facilement condamner les scandales des autres personnes. Parce que leur critique conforte en quelque sorte leur attitude de propre juste. Leurs critiques viennent caresser leur ego personnel. Un peu comme David qui réagit à la parabole de Nathan et qui ensuite s'indigne et dit « Mais cet homme doit mourir !» sans se rendre compte que c'est lui cet homme et qu'il s'est enfoncé dans l'hypocrisie. Mais ce que nous révèle le texte de ce matin, c'est que quand David a réalisé qu'il était hypocrite, il a voulu être entièrement lavé de son péché devant Dieu. Et si David n'était pas passé par une profonde conviction de péché, s'il n'avait pas été certain que Dieu était prêt à pardonner ses fautes, s'il n'avait pas compris que Dieu le purifiait de son péché, qu'il était prêt à le renouveler spirituellement, David ne serait jamais devenu le psalmiste que nous connaissons dans l'Écriture. Il n'aurait jamais écrit ces psaumes dans lesquels nous pouvons tous nous reconnaître. J'ai jusqu'ici parlé beaucoup de David, comme le fait le texte biblique. Et pourtant, il y a une personne que nous avons laissée dans l'ombre jusque-là. C'est Bathsheba. Bathsheba qui était victime de la convoitise et du désir de David. Nous ne savons presque rien d'elle. Nous savons juste qu'elle a souffert beaucoup, qu'elle a perdu son intégrité, qu'elle a porté un enfant illégitime, qu'elle a ensuite perdu son mari, qu'elle a dû marier son amant, qu'elle a ensuite perdu l'enfant qu'elle attendait de son amant. Le narrateur biblique ne nous parle pas vraiment d'elle parce qu'il met toute l'attention sur David pour montrer combien l'égocentrisme de David l'a enfermé dans le péché. Combien l'égoïsme de David l'a entraîné dans toute cette série d'aventures. Bathsheba est la femme d'un autre. Et pourtant, David la prend pour lui. On a souvent dans ce monde des histoires qui ressemblent à cela, où un homme marié va prendre la femme d'un autre. On pense souvent qu'il y a de l'amour. C'est intéressant de constater que le texte biblique n'évoque jamais la notion d'amour dans ce qui se passe ici. Il n'utilise même aucun terme qui pourrait laisser penser à une relation affectueuse. Et quand Bathsheba est veuve et que David la prend pour femme, il n'y a rien qui nous laisse entendre que ce serait là une bonne action. L'histoire pourrait sembler mal se terminer, et pourtant Dieu n'a pas signé la fin de l'histoire, parce que Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Parfois, dans des situations analogues, certains envisagent le suicide pour ne pas passer par la case repentance. Mais David passe par cette case de la repentance. Et Dieu lui permet de partir à nouveau. Dieu intervient aussi pour Bathsheba, après toutes les misères qu'elle a eues, après qu'elle ait perdu son enfant. Elle en vient apporter un autre enfant qui est un cadeau de Dieu. Et de cet enfant, il est dit qu'il est le bien-aimé de l'Éternel. Il peut être difficile pour nous de comprendre pourquoi ce fils-là, issu de Bathsheba, parmi tous les autres fils de David, pourquoi c'est ce fils-là qui fait l'objet de la faveur de Dieu? Mais ce fils porte en quelque sorte tout le message que nous avons vu ce matin, le message de la grâce de Dieu. Il y a un redépart possible, il y a de nouveaux départs possibles. La grâce de Dieu peut venir suppléer à tout ce qui a manqué et fait défaut. Ce fils nous montre qu'il est toujours possible de revenir dans la présence de Dieu et d'obtenir la faveur de Dieu. Depuis les ténèbres les plus profondes, il y a un chemin de retour possible vers Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, comme on le voit dans ce texte, a ce pouvoir de venir toucher notre conscience dans ce qu'il y a de plus profondément enfoui, pour amener ces choses-là en lumière et permettre d'être pardonné, revivifié et partir de nouveau avec le Seigneur. Salomon a été choisi comme celui qui allait prendre la place du successeur sur le trône de David. Mais plus encore, et c'est là que nous voyons combien la grâce de Dieu est grande, de cette lignée-là viendra Jésus, le roi des rois, issu de cet enfant, issu de cette postérité de David et de Bathsheba. Et nous voyons là combien la rédemption est possible. Combien il est possible de croire qu'il y a un redépart que Dieu va permettre pour ceux qui reviennent à lui. Alors que toute la gloire soit rendue à Dieu quand nous le voyons à l'œuvre de cette manière-là. Amen. J'aimerais prier encore avec vous. Seigneur, ton œuvre qui consiste à mettre en lumière ce qui est caché pour venir le purifier. Ton œuvre qui a consisté à prendre nos péchés sur toi en Jésus-Christ. Ton œuvre qui est celle du pardon gratuit pour tout pécheur qui se repent. Cette œuvre-là force notre admiration et notre louange. Merci pour cette œuvre que tu as faite dans nos vies et que tu veux continuer à faire. Je te prie, Seigneur, que ce matin, si quelqu'un constate que tu mets des choses en lumière dans sa vie, il ait la force de venir vers toi, de confesser sa faute, de se repentir et de recevoir ta grâce. Ne nous laisse pas en chemin, Seigneur. Merci parce que tu es toujours prêt à venir auprès du pécheur qui se repent. Fais-nous la grâce de vivre avec toi, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.